Radio France Internationale, il est 5h en temps universel, 7h à Paris et à Cannes.
Marion Cazanov.
RFI Matin, ça commence avec le journal. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Marion et bonjour à vous qui nous écoutez.
À la une ce matin, une palme d'or très politique à Cannes.
Le réalisateur iranien Jafar Panahi a remporté la prestigieuse récompense sur la croisette pour Un simple accident, un film qui raconte les exactions des services de sécurité iraniens. Il faut cesser de frapper des civils, notamment des enfants, parole de manifestants israéliens hier soir. Des centaines de personnes critiquent la conduite de la guerre par Benjamin Netanyahou. On est à Jérusalem dans un instant. Dans ce journal aussi, la reprise du procès de l'attentat d'In Amenas en Algérie, rassemblement contre la loi sur la fin de vie en France, et puis un quasi sans faute. Hier soir, à une semaine d'une finale européenne, le PSG s'offre la 16e Coupe de France de son histoire.
Transformer les ténèbres en pardon, en espérance, en vie nouvelle. C'est avec ces mots que Juliette Binoche a refermé le Festival de Cannes hier.
Après 11 jours de strass, de paillettes et de projections, la présidente et son jury se sont mis d'accord. Un palmarès très politique cette année, a commencé Guillaume Thibault par la plus prestigieuse des récompenses cannoises.
Palme d'or, Un simple accident, c'est le récit d'un tortionnaire kidnappé par ceux qu'il détenait. Le réalisateur Jafar Panahi nous interpelle sur la violence et la vengeance et appelle à l'unité.
Mettons tous les problèmes, toutes les différences à côté. Le plus important en ce moment, c'est la liberté de notre pays.
Grand prix du festival avec Sentimental Value, Joachim Trier nous entraîne dans les relations entre générations, entre un père réalisateur et sa fille comédienne, du cinéma dans le cinéma et un immense honneur d'être primé.
J'aimerais rendre hommage au Festival International du Film de Cannes parce que c'est vraiment la cathédrale, c'est l'univers de l'image libre. Et le cinéma est un langage universel qui nous fédère.
Avec Sirat, prix du jury, Oliver Lax nous embarque dans une chevauchée fantastique au Maroc, la quête d'un père et de son fils, avec comme toile de fond les rêves partis, sa façon d'appeler au respect de toutes les communautés.
Dans ce merveilleux jeu de miroir qui est le cinéma, et apprendre à voir le monde toujours comme si c'était la première fois, avec des nouveaux yeux. Donc voilà, vive les différences, vive les cultures et vive le Festival de Cannes.
Identité, partage, excès des pouvoirs politiques, le jury du 78e Festival du cinéma a donc fait le choix de nous questionner sur notre humanité et nos valeurs. Guillaume Thibault, Cannes, RFI.
Et côté interprétation chez les femmes, c'est la Française Nadia Meliti, 23 ans, qui l'emporte pour son rôle dans La Petite Dernière. Chez les hommes, le prix est revenu à Wagner Moura pour le film L'Agent Secret, film brésilien. Tout le palmarès de cette 78e édition du Festival de Cannes est à retrouver sur RFI.fr.
Des habitants réveillés par le bourdonnement des bombes dans le ciel et des morts par dizaines à Gaza, Israël poursuit sa guerre contre le Hamas.
Avec un nouveau drame, hier, 9 enfants d'une même famille ont été tués dans une frappe. Ils avaient entre 6 mois et 12 ans. L'armée israélienne dit avoir visé un bâtiment adjacent. Pendant ce temps, la société israélienne continue, elle, de se fracturer face à la conduite de cette guerre, mais aussi face au sort des otages. Hier, comme tous les samedis, on manifestait à Jérusalem. Michel Paul y était pour RFI.
C'est le cri d'alarme des familles d'otages qui dénoncent la politique de Benjamin Netanyahou. Il a décidé de signer leur arrêt de mort en choisissant la guerre plutôt qu'un accord. Enav est la mère de l'otage Matan Tsangaoker, enlevé le 7 octobre.
Netanyahou veut nommer à la tête du Shin Bet, qui doit s'occuper du retour de mon fils, un homme qui proclame s'opposer à sa libération. C'est contraire aux valeurs juives et humaines, et cela ne passera pas.
Il faut arrêter la guerre et cesser de frapper des civils, notamment des enfants, affirme Jonathan Robin.
On ne peut pas frapper de cette manière des populations non combattantes, avec des bombardements, des tueries et en les affamant. Ce n'est pas moral et ce n'est pas non plus efficace, ni du point de vue militaire, ni au niveau diplomatique.
Les résultats de la politique de Netanyahou sont déjà là, estime pour sa part David Aid, un professeur de philosophie.
Israël va être de plus en plus isolé. Plus on continue avec la guerre et plus le monde va en avoir ras-le-bol de nous, y compris les États-Unis. C'est un grand danger.
De nouveaux rassemblements sont prévus mercredi prochain pour marquer les 600 jours de l'enlèvement des otages et du début de la guerre à Gaza. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
La guerre se poursuit aussi en Ukraine. Nouvelle nuit de bombardements russes. Les missiles et les drones ont fait au moins 3 morts dans la région de Kiev et 4 dans l'ouest du pays. Des attaques aériennes alors que l'échange de prisonniers se poursuit entre la Russie et l'Ukraine. Hier, 307 soldats ont été libérés de chaque côté. L'échange doit continuer aujourd'hui.
50% de droits de douane à l'entrée aux États-Unis. Une situation intenable pour le ministre français du commerce extérieur.
Ce serait une catastrophe, poursuit Laurent Saint-Martin. L'Union européenne continue de négocier avec Donald Trump qui a lancé un ultimatum vendredi. Et elle n'est pas la seule. Plusieurs pays veulent s'arranger avec Washington. On est à mi-parcours là du délai de suspension des droits de douane réciproques du président américain. Et Justine Fontaine, il faut dire que jusque-là, le bilan des négociateurs américains est assez maigre.
Quelques jours après la suspension des droits de douane, Peter Navarro, conseiller au commerce de Donald Trump, s'affichait très optimiste sur la chaîne NBC. 90 accords pourraient être signés en l'espace de 90 jours, estimait-il. Sauf qu'à mi-parcours, seuls 2 ont pour l'instant été trouvés. D'abord avec le Royaume-Uni, 10% de droits de douane entre les deux pays qui ont fait des concessions l'un sur le bœuf américain, l'autre sur l'acier britannique. Quelques jours plus tard, Washington a également signé la désescalade avec Pékin. Les droits de douane stratosphériques entre les deux pays ont été ramenés provisoirement à 30% pour les produits chinois entrant aux États-Unis et 10% pour les produits américains importés en Chine. Et c'est à peu près tout, car avec d'autres pays comme l'Inde, le Vietnam ou la Corée du Sud, les discussions tardent à se concrétiser, voire n'avancent pas du tout. Alors ce vendredi, au micro de Bloomberg, le secrétaire au Trésor Scott Bessent semblait presque hésitant. J'ai le sentiment que dans les 2 prochaines semaines, plusieurs grands accords seront annoncés, dit-il. La Maison-Blanche va-t-elle mettre la pression à certains pays comme elle vient de le faire pour l'Union européenne ? Va-t-elle plutôt repousser l'échéance des 90 jours ? Avec Donald Trump, une seule certitude, rien n'est prévisible.
Justine Fontaine, 2 jours après sa rencontre avec le président américain, lui, veut faire baisser la température. Cyril Ramaphosa va assouplir la législation sud-africaine sur l'actionnariat noir dans les entreprises de télécom. Loi décriée par les États-Unis et notamment Elon Musk qui souhaite déployer Starlink dans la nation arc-en-ciel.
Il est 5h07 en temps universel. Il s'était ouvert il y a un an en Algérie. Le procès de l'attentat d'In Amenas va reprendre.
Il avait été renvoyé en l'absence de l'avocate d'un des accusés. 4 hommes comparaissent notamment pour appartenance à un groupe terroriste. En janvier 2013, un commando terroriste avait pris en otage les employés d'un site gazier dans le sud-est de l'Algérie, avant que les autorités algériennes mènent une opération pour les libérer. Retour sur ces 3 jours de terreur avec Walid Diallo.
À l'aube du 16 janvier, 10 pick-up pénètrent l'enceinte du complexe gazier. Rapidement, ils séparent expatriés et travailleurs locaux et préparent leur siège. Selon des témoins, ils font porter des ceintures d'explosifs aux otages et menacent de faire sauter le site. L'attaque est revendiquée par le groupe des signataires Par le Sang, dirigé à distance par Mokhtar Belmokhtar, ancien membre d'ACMI. Ils demandent aux militaires qui entourent le périmètre de quitter la zone et exigent la fin de l'agression française au Mali, en référence à l'opération Serval qui a débuté 5 jours avant. L'armée algérienne lance 2 assauts les 17 et 19 janvier. Une trentaine de terroristes sont neutralisés, mais on déplore la mort d'une quarantaine d'employés. Des victimes collatérales, selon leur famille. Plusieurs seront présentes à ce procès. Elles demandent transparence et vérité sur l'intervention de l'armée algérienne sur le site gazier.
Walid Diallo, les députés français vont-ils approuver la création d'un droit à l'aide à mourir ? Les 2 propositions de loi ont été examinées par l'Assemblée, l'une sur les soins palliatifs et l'autre sur ce droit à l'aide à mourir. Le vote solennel, c'est mardi et en attendant, la société civile continue de se mobiliser. Il faut dire que le texte suscite de nombreuses réactions. Côté contre, 300 personnes ont manifesté hier devant l'Assemblée nationale pour faire entendre leur opposition à ce texte. Reportage Vincent Danilo.
Plutôt la mort que le soin, suis-je digne d'être soigné ? Voilà les questions qu'ont brandies sur des pancartes les personnes venues manifester contre le projet de loi de l'aide à mourir. Parmi elles, Louis Bouffard, 25 ans et atteint de la myopathie de Duchenne, qui se dit effrayé par le contenu du texte.
Il n'y a pas un choix binaire à faire entre souffrir ou mourir. Il y a cette troisième voie, cette voie exigeante où on soulage les souffrances, où on apaise au risque d'accélérer la fin. Et on ne lutte pas contre la souffrance en tuant celui qui souffre, mais en apaisant considérablement.
Apaiser, soulager, proposer plus de soins à ces personnes, c'est également ce que demande Mélanie Janteur, aidante et organisatrice du rassemblement.
Développer les soins palliatifs, évidemment, parce qu'il n'y a pas la moitié de nos départements qui en ont. Évidemment qu'il faut les développer, le traitement de la douleur, les aides à domicile, ça, ce serait très important pour aider ces personnes qui ont le courage de vivre, quoi.
Orvédi Claudio étudie en classe préparatoire et est atteint d'une maladie rare. Lui ne demande qu'une seule chose, vivre dignement.
Par exemple, j'espère être éligible à HEC dans quelques semaines. Et c'est ça qui me tient à cœur. Et je veux pas savoir que je suis éligible à la mort, vous voyez, donc c'est plus ça.
Les députés voteront mardi prochain sur la création d'un droit à l'aide à mourir.
Reportage de Vincent Danilo pour RFI. On manifestait en Bretagne aussi hier, mais là les manifestants étaient en bateau dans l'archipel des Glénans. À l'appel d'un groupe écologiste, tous ont pris les rames et les voiles pour dire non à Vincent Bolloré, une régate anti-Bolloré, le milliardaire et mania des médias qu'ils accusent de véhiculer des idées d'extrême droite.
On referme ce journal avec du foot. Ils ne devaient pas passer à côté à une semaine de leur finale européenne.
Les joueurs du PSG ont déroulé leur partition hier au Stade de France pour s'offrir une 16e Coupe de France. Match maîtrisé de bout en bout, 3-0 contre le Stade de Reims. Sofiane Amazian, les joueurs de Luis Enrique se lancent parfaitement avant le déplacement à Munich.
Les Parisiens l'avaient assuré, ils ne sont pas venus faire de la figuration au Stade de France. Victoire large, 3-0, face à des Rémois sûrement plus concentrés sur leur survie en Ligue 1. Et voilà une 16e Coupe de France dans l'armoire du PSG.
On savait qu'on avait cette finale de Coupe, qu'il ne fallait pas passer à côté. Parce que c'est quand même un autre trophée pour les vitrines, un autre trophée pour le club, un autre trophée pour nous, pour les joueurs.
Le défenseur central, Lucas Hernandez, a participé à la fête en fin de rencontre, mais tout s'est joué en première période. Bradley Barcola, homme du match, s'est offert un doublé avant de servir son coéquipier marocain Achraf Hakimi pour le troisième but. Le collectif parisien a encore fait la différence, souligne l'international français.
Tout le monde est concerné, tout le monde est important, tout le monde se sent bien dans cette équipe. Cette cohésion de groupe qu'on a sur le terrain et en dehors du terrain, c'est ce qui fait la différence et c'est ce que cette année, c'est en train de faire la différence.
L'une des révélations de la saison, le défenseur équatorien William Pacho veut prendre le temps de savourer quelques heures avant de se focaliser sur l'autre finale.
Non, muy content.
Je suis très heureux. La vérité, c'est que c'est une saison incroyable. Maintenant, il faut bien se reposer, profiter un peu avec nos familles, avant de repartir de l'avant pour la bataille qui nous attend.
Championnat, Coupe de France, Ligue des Champions, le triplé parisien est tout proche. L'Inter Milan est prévenu.
Sofiane Amazian du service des sports d'RFI. Le sport, c'est aussi du rugby et Bordeaux-Bègles qui a écrit une nouvelle page de son histoire. Hier, les Bordelais sont devenus champions d'Europe en battant Northampton 28-20. Et puis week-end de Formule 1 aussi, c'est le Grand Prix de Monaco avec les qualifications. Hier, exercice toujours très impressionnant dans les rues étroites de la principauté. C'est le pilote britannique Lando Norris qui a décroché la pole position en s'offrant même, Marion, le record de la piste. Pour la première fois de l'histoire, il est descendu sous la minute 10 pour parcourir les 3 km 337 du circuit.
Arthur Ponchelet pour le journal RFI, 7h13 à Paris, 5h13 en temps universel. On est ensemble pour 3 heures d'information avec nos chroniques, nos journaux et nos reportages. On reviendra encore largement ce matin sur la Palme d'Or décernée hier au Festival de Cannes au réalisateur iranien Jafar Panahi et pour son film Un simple accident qui marque son retour après 15 ans d'interdiction de tournage. On sera à Téhéran dans le journal de 7h temps universel pour voir la réaction des Iraniens à cette Palme d'Or. On verra aussi qu'en Tunisie, le cinéma peut être politique, ce sera dans le reportage Afrique. L'Afrique en marche ce matin, on s'intéressera au centre médical Serfig à Conakry, distingué récemment par un prix scientifique. En France, les députés voteront mardi pour autoriser ou non un droit à mourir, un sujet très délicat débattu dans plusieurs pays du monde. On verra comment est abordée la question dans le tour du monde des correspondants d'ici une heure. Et puis dans le journal des sports, on reviendra sur le sacre du PSG en Coupe de France, de quoi lui donner de l'élan avant la finale dimanche pour la Ligue des Champions face à l'Inter Milan. RFI Matin, vous avez le programme, bon réveil et bonne journée à notre écoute. on commence ce tour du monde de l'actualité aux États-Unis. Plus de 4 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump continue de saturer l'espace médiatique et politique avec des décrets signés à tour de bras, des déclarations fracassantes. Et dans tout cela, l'opposition démocrate a bien du mal à se faire entendre. Le courant conservateur semble donc avoir de beaux jours devant lui. Mais différents courants, justement, s'opposent chez les Républicains en interne. Les libertariens, par exemple, s'opposent en de nombreux points à l'administration Trump, même si leurs idées irriguent la droite et l'extrême droite. Edouard Maille a rencontré plusieurs de ces libertariens dans le Kentucky, un état du Sud-Est. Son reportage.
3 personnes terminent la réunion mensuelle du parti libertarien local dans une salle de cette bibliothèque publique. Un des points de désaccord avec les républicains est la place qu'occupe la religion dans la politique, comme l'explique Steve, le président du parti libertarien local.
Je me considère comme un chrétien anarchiste, ce qui veut dire que chacun devrait vivre la vie que Dieu a prévue pour lui, et le gouvernement ne devrait pas nous dire comment faire cela. Le gouvernement ne doit avoir aucun rôle dans la vie des personnes. Ce que les gens font ne nous regarde pas.
De nombreux États conservateurs, comme ici dans le Kentucky, ont interdit ou réduit l'accès à l'avortement, citant notamment des raisons religieuses, un argument auquel Steve s'oppose.
Je ne suis pas en faveur de l'avortement, je n'aime pas ça. Mais s'il existe une clinique d'avortement et une personne estime qu'elle a besoin d'y aller, je peux détourner le regard, car la dernière chose qu'on veut, c'est la création d'un marché noir.
Autre point de désaccord, la politique anti-immigration des républicains, contraire aux valeurs de Mitch.
Je suis pour l'ouverture des frontières. Je n'ai aucun problème à ce que les gens entrent dans ce pays. C'est ce que tout le monde a fait quand ce pays a été créé. Et je pense que c'est formidable d'avoir un groupe varié de personnes avec des idées et des cultures différentes. C'est une chose géniale. Essayer de renvoyer la moitié de la population ou je ne sais combien, on s'en fiche.
Une des revendications principales des libertariens est de diminuer le rôle du gouvernement, ce que fait Donald Trump avec ses coupes budgétaires drastiques et ses licenciements de fonctionnaires. Mais la façon dont le président procède n'est pas la bonne pour Rhonda.
Je pense qu'on doit examiner chaque partie de l'administration pour voir où est-ce qu'on peut faire ces changements. Mais arriver avec un bulldozer en renvoyant tout le monde et en retirant des ressources au peuple américain n'est pas la bonne façon de le faire.
Les 3 personnes s'opposent également au système politique américain, dominé par les 2 partis, républicains et démocrates, et regrettent le manque d'alternatives politiques. Edouard Maille, Mount Washington dans le Kentucky, RFI.
Le reportage international, comme tous nos autres reportages, nos autres chroniques sont à réécouter sur notre site rfi.fr ou bien notre application Pure Radio. La chronique politique cette semaine en France, les tensions entre le camp présidentiel et les républicains. Dimanche dernier, Bruno Retailleau, actuel ministre de l'Intérieur, a été élu président du parti de droite. Et côté macroniste, on s'agace. L'intéressé, selon eux, se voit déjà président. Bonjour Charlotte Urien-Tomaca.
Bonjour Marion.
Ce qui irrite aussi, Charlotte, c'est la sortie d'une autre ministre issue des LR.
Et pas n'importe quel ministre, la porte-parole du gouvernement Sophie Prima, interviewée sur Europe 1 cette semaine, cette proche de Bruno Retailleau estime, je cite, que le macronisme trouvera probablement une fin dans les mois qui viennent. La question, c'est comment on rebâtit la suite. Dans la foulée, les messageries des députés Ensemble pour la République ont surchauffé, députés qui ont immédiatement demandé la démission de Sophie Prima, mais aussi celle de Bruno Retailleau. Car quelques jours plus tôt, le ministre de l'Intérieur avait clamé, je le cite, « Je ne suis toujours pas macroniste ». Pas très sympathique, alors que le camp présidentiel et les républicains cohabitent dans le socle commun, formant le gouvernement. Alors dans un tir groupé à l'allure d'offensive organisée sur les réseaux sociaux, les cadres de Renaissance se sont plus cette semaine à rappeler les scores modestes des républicains lors des derniers scrutins.
Et c'est donc une ambiance compliquée dans le bloc central où ils sont tous alliés malgré eux.
Oui, c'est une ambiance à couteau tiré. On ne compte plus les sujets de discorde. Du port du voile dans le sport, aux suites de la condamnation de Marine Le Pen et du Rassemblement National, de la fin des zones à faible émission à la loi Paris-Lyon-Marseille, le socle commun s'illustre par des divisions permanentes, s'exprimant en continu sur la place publique. Elles opposent les républicains aux macronistes, mais aussi au sein même de chaque parti la composant. Et ils ne s'en cachent plus, les députés des 2 blocs. Pierre Cordier, député LR, devant son groupe, je le cite, « À force, on ne sait plus ce qu'il y a de commun dans ce socle ».
Mais ils n'ont d'autre choix que de vivre ensemble, car sinon, la coalition tombée, chacun disparaît derrière le NFP et le RN. Charlotte, est-ce que le gouvernement peut encore tenir longtemps ?
Pour le moment, la coalition de François Bayrou est encore protégée par la peur du chaos que pourrait entraîner la chute de son gouvernement. Mais pour combien de temps ? De tous les côtés de ce bloc central, les signes d'exaspération se multiplient. En témoignent les dernières déclarations évoquées plus haut. Et même s'ils n'aiment pas les personnalités d'Emmanuel Macron et de François Bayrou, les électeurs LR aiment encore moins le désordre. Malgré les tensions, aucun député du bloc central n'imagine d'ailleurs son gouvernement être renversé par une motion de censure, comme celui de Michel Barnier en décembre 2024. La perspective d'une dissolution techniquement possible à partir de cet été effraie jusque dans les rangs du Rassemblement National, de quoi la dissuader d'appuyer sur le bouton rouge de la censure. Mais chacun le sait, le budget qui arrive s'annonce explosif et c'est donc à partir du mois d'octobre que, s'il veut tenir, le socle commun devra se ressouder pour affronter cette dangereuse zone de turbulence.
Mais avant de voter le budget, l'Assemblée nationale votera après-demain pour adopter ou non deux propositions de loi, l'une sur les soins palliatifs, l'autre sur le droit à mourir. Les débats se sont achevés hier dans l'hémicycle. On y revient aussi sur la question du droit à mourir dans une heure dans le Tour du Monde des correspondants. Merci Charlotte Urien-Tomaca pour la chronique politique de RFI. De l'Afrique à l'Amérique latine, des mers de Chine à l'Ukraine, en passant par le Proche-Orient, les frontières sont aujourd'hui un sujet crucial au cœur des conflits qui agitent le monde. D'où viennent ces conflits frontaliers ? Comment les comprendre aujourd'hui ? C'est l'objet du livre « Tracer des frontières, des histoires de cartes au cœur des conflits contemporains », ouvrage coécrit par David Perrier et Jean-Baptiste Weber. Ce dernier répond aux questions de Joris Zilberman.
Jean-Baptiste Weber, bonjour.
Bonjour.
Votre ouvrage, qui est coécrit avec David Perrier, aborde notamment l'exemple de l'enclave russe de Kaliningrad. Alors d'où est née cette frontière si explosive pour la Russie et pour l'OTAN ?
Alors Kaliningrad, c'est une prise de guerre de Staline sur l'Allemagne nazie. C'est une prise de guerre pour punir l'Allemagne et c'est pas n'importe quelle prise de guerre parce que c'est vraiment l'un des cœurs de la civilisation allemande. C'était anciennement Königsberg, rebaptisé Kaliningrad. Et totalement russifié. Ce territoire, en fait, il n'y avait pas de problème de discontinuité au moment de l'URSS parce que vous aviez ce qu'on appelle le bloc de l'Est, hein, et donc les Pays-Baltes, la Pologne en faisaient partie. Mais avec la dislocation de l'URSS, les Pays-Baltes, la Pologne ont repris leur indépendance, cet espace de Kaliningrad va se retrouver tout d'un coup isolé à cause des indépendances, et puis doublement avec l'élargissement de l'UE.
Et vous le soulignez dans votre livre, après une période pacifique autour de Kaliningrad, les tensions avec les frontières russes reprennent à partir de 2008 en Géorgie, en Crimée en 2014, et en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine. Alors quel est l'enjeu aujourd'hui de cette enclave russe de Kaliningrad ?
C'est devenu un lieu extrêmement utile pour la Russie, qui a un pied littéralement chez ses ennemis, l'UE et l'OTAN. Si l'on regarde bien le tracé des frontières à cet endroit-là, vous avez un tout petit espace qui s'appelle le couloir de Suwalski, qui relie les États baltes à la Pologne, qui fait à peine 80 km de large, et qui sépare la Biélorussie, alliée très très proche de Moscou, sinon État vassal, et l'enclave de Kaliningrad. Donc il y a une grande inquiétude en plus des géostratèges, non seulement sur cette enclave, mais aussi sur le fait que, comme la Biélorussie et Kaliningrad sont extrêmement proches, il y aurait un plan stratégique à construire qui consisterait à envahir les États baltes via ce couloir de Suwalski, hein, qui a aussi le surnom de talon d'Achille de l'Europe, et ça pourrait prendre, vu la masse de l'armée russe, 24 heures à 48 heures, hein, si l'attaque se faisait de façon surprise. Et puis ensuite, donc, dans le cas d'une vraie confrontation, ce serait une première défaite, sinon stratégique, en tout cas psychologique très dure.
Jean-Baptiste Weber, votre ouvrage regorge d'exemples de frontières mal définies ou en tension perpétuelle, comme bien sûr dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'on a là une frontière impossible à trouver ?
Alors le terme est bien trouvé, effectivement, c'est une recherche impossible. En tout cas, depuis des millénaires, les pays ne sont pas établis plus de quelques générations à la suite. Et j'allais dire, sur les frontières actuelles, on peut considérer qu'il y a trois frontières minimum. Il y a les frontières considérées comme légitimes par Israël et peut-être plutôt par ceux qui vont soutenir Israël ou voir les sionistes. Un autre regard sur ces frontières, ça va être le regard des Palestiniens et puis de leur soutien. Entre les deux, il y a les découpages internationaux. Nous, les Occidentaux, par exemple, on tient beaucoup plus de ce regard-là. Et c'est autour de ces regards-là que les conflits ne cessent de se perpétuer et les négociations ne sont jamais achevées. Les extrémismes, là-dedans, jouent de ces tensions, hein, de ces limites constantes pour créer un conflit à un moment donné d'une façon ou d'une autre et pour remettre en cause perpétuellement ces frontières. Ils y ont un intérêt parce que poser la frontière, en fait, c'est résoudre quand même un problème.
Vous nous emmenez aussi en mer de Chine du Sud pour aborder le découpage des mers. On est au cœur de la poudrière avec la Chine qui revendique 80% de la zone face aux pays riverains. Comment définir ces frontières maritimes qui semblent abstraites et toujours contestables ?
Il n'y a pas de tracé fixe, comme on peut le voir sur les frontières terrestres, avec des barrières, avec des gardes-frontières. Là, c'est, il faut perpétuer une présence systématique. Donc, dès qu'il y en a un, c'est un peu le jeu des chaises musicales, dès qu'il y en a un qui s'en va, l'autre va s'empresser de prendre la place. L'Indonésie a coulé, il y a quelques décennies maintenant, un navire militaire dans une zone contestée. Chaque année, un certain nombre de soldats sont envoyés sur ce navire pour qu'il y ait une présence sur ce navire et que donc le territoire indonésien il soit légitimement représenté. Et donc en fait la Chine face à ça, elle assiège cet îlot artificiel, ce récif artificiel de diverses façons, mais notamment en envoyant des navires militaires ou des milices constituées de pêcheurs en fait, hein, qui vont utiliser, alors c'est beaucoup à l'aide de canons à eau extrêmement puissants, qui vont en fait décourager les navires indonésiens de venir ravitailler les soldats sur leur îlot artificiel. C'est assez ubuesque, mais c'est très sérieux et ça génère énormément de tensions géopolitiques dans la région.
Jean-Baptiste Weber, merci beaucoup.
Avec plaisir, merci de m'avoir invité.
Tracer des frontières, des histoires de cartes au cœur des conflits contemporains, c'était le livre international écrit donc par David Perrier et Jean-Baptiste Weber. 7h26 à Paris, dans quelques minutes sur RFI, le retour de l'actualité africaine. Mais d'abord notre chronique « Jusqu'où va la science ?» On part pour le Mexique, où une chercheuse a développé dans son laboratoire une super tortilla à haute valeur nutritive et pourtant peu calorique. En plus de cela, elle se conserve même sans réfrigérateur. Caroline Lachowski, c'est un aliment développé pour les populations les plus vulnérables.
Rappelons que la tortilla, cette petite crêpe de maïs ou de blé dans le nord du pays, est l'aliment de base des Mexicains qui en consomment quotidiennement, fourrés ou non, à toutes les sauces. Dans un pays où le double fléau de la malnutrition et de l'obésité touche les populations les plus pauvres et les plus vulnérables, notamment les communautés indigènes, 27% des enfants indigènes du Mexique souffrent de malnutrition, la professeure Raquel Gomez, biochimiste, microbiologiste, nutritionniste et spécialiste des maladies métaboliques à l'UNAM, l'Université nationale autonome du Mexique, a réussi à fabriquer dans son laboratoire de microbiologie une super tortilla sans conservateur, à valeur nutritionnelle élevée et peu calorique. Comment ? En ajoutant à la farine de blé des tortillas, mais le même procédé pourrait être adapté à la farine de maïs, en y ajoutant certains micro-organismes triés sur le volet, des pré- et probiotiques, comme ceux que l'on trouve dans les yaourts et les aliments fermentés. Ce processus, dit de double fermentation à partir de levures vivantes, assure à la fois une meilleure digestion des nutriments, on sait l'intérêt des aliments fermentés sur la santé, mais en plus évite l'usage de conservateurs et autres additifs. Cette tortilla qui par ailleurs est très douce au goût, peut se conserver grâce à la fermentation plus d'un mois hors d'un réfrigérateur, ce qui est essentiel pour les Mexicains les plus démunis qui sont nombreux à ne pas disposer de réfrigérateur.
Et donc une super tortilla longue conservation, 100% naturelle, bonne pour la santé forcément, ça donne envie Caroline.
Elle est non seulement nourrissante, mais aussi très peu calorique, entre 80 et 85 calories par tortilla, ce qui est essentiel pour lutter contre l'obésité et le diabète, qui touchent de plus en plus de Mexicains, notamment dans les classes les plus pauvres. Sachant que deux tortillas équivalent à peu près à un verre de lait, la haute valeur nutritive de cette super tortilla n'est plus à démontrer. La professeure Raquel Gomez a d'ailleurs remporté l'an passé le premier prix de l'Institut mexicain de la propriété industrielle, dans la catégorie des inventions susceptibles d'apporter des solutions aux populations les moins favorisées. Sa tortilla a été brevetée, mais n'est toujours pas commercialisée au Mexique. La professeure Raquel Gomez le déplore, en précisant dans le journal de son université être prête à transférer cette biotechnologie, en précisant que le blé étant de plus en plus consommé dans le monde, cette pâte à tortilla augmentée pourrait aussi servir de base à d'autres pâtes, pour la pizza par exemple, et donc être utile bien au-delà au-delà des frontières du Mexique. À bon entendeur.
Merci Caroline Lachowski pour la chronique. Jusqu'où va la science? On vous retrouve la semaine prochaine. Caroline, au programme d'Autour de la question.
Vous connaissez King Kong? Eh bien demain, on vous présente Queen Kong, le pouvoir insoupçonné des femelles gorilles, décrit par une primatologue qui les connaît bien. Et mardi, magie et illusion en direct autour de la question comment les prestidigitateurs manipulent notre cerveau. Vous n'en reviendrez pas.
Voilà pour le programme, Caroline Lachowski. On se retrouve dans 30 secondes sur RFI pour le retour de l'actualité africaine.
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain. Avec le podcast La Relève du Rire, plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.